Il est 18h. Merci à vous d'écouter Europe 1.
6 personnes en garde à vue dans l'enquête sur la mort d'une collégienne de 14 ans à Saint-Chéron dans l'Essonne. L'auteur des faits est également entendu par les policiers.
L'adolescente aurait tenté de s'interposer pour mettre fin à une bagarre entre bandes rivales. Les derniers éléments de l'enquête dès le début de ce journal.
Dunkerque et la crainte du confinement. Le virus circule de plus en plus, mais sur place, les autorités locales veulent tout faire pour éviter un reconfinement.
Nice hier, Dunkerque aujourd'hui. Les indicateurs repartent à la hausse presque partout en France. Le nombre de malades en réanimation a retrouvé son niveau de début décembre.
Il n'y a pas de salon de l'agriculture. Qu'importe, Emmanuel Macron est quand même allé à la ferme. Rencontre avec les agriculteurs sur fond de tension avec la grande distribution.
C'était une demande des associations étudiantes pour lutter contre la précarité menstruelle. Les protections périodiques deviendront gratuites dès la rentrée de septembre pour les étudiantes.
Netflix s'empare du dossier Pelé, documentaire sur le légendaire numéro 10 brésilien. Vous pensiez tout savoir. Erreur, nous dira Cyril de la Morinerie. Il y a encore des choses à apprendre. Et puis la Bourse de Paris termine en très légère hausse, plus 0,22% à 5 779 points.
Bonsoir Anissa Haddadi.
Bonsoir Isabelle.
Du très beau temps pour demain.
Oui, après la dissipation des quelques brouillards matinaux, le soleil va bien briller dans un ciel complètement dégagé demain avec des températures encore en hausse. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'enquête ne fait que commencer à Saint-Chéron dans l'Essonne un peu plus de 24 heures après la mort d'une collégienne de 14 ans.
L'adolescente aurait été tuée d'un coup de couteau en pleine rue, à proximité de son collège de Saint-Chéron. Et Justin Morin, on commence à y voir un peu plus clair et à comprendre ce qui s'est passé.
Oui, effectivement, la procureure de la République d'Evry doit tenir un point presse d'un instant à l'autre. On attend vraiment les derniers éléments, mais ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les faits se sont déroulés aux alentours de 15 heures hier après-midi. Un groupe venu de la commune voisine de Dourdan est alors à la recherche d'un autre jeune d'une bande de Saint-Chéron. Mais il croise un autre garçon, un ami de celui qu'il recherche. C'est à ce moment-là que ça dégénère. Alors pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. La procureure nous en dira peut-être plus. En revanche, on sait qu'une dizaine de jeunes sont impliqués dans cette bagarre. À ce moment-là, la victime, une adolescente de 14 ans, tente de s'interposer et reçoit un coup de couteau dans le ventre. Elle a été transportée en urgence absolue à l'hôpital, mais elle est décédée dans la nuit. L'auteur du coup de couteau et ses complices se sont enfuis, mais ils ont été interpellés plus tard dans la journée. En tout, 6 mineurs, dont l'auteur présumé des faits, âgé de 16 ans, qui a été désigné par 4 de ses complices. Ce soir, ils sont toujours en garde à vue. La préfecture de l'Essonne alerte sur l'augmentation de ces rixes. Le préfet, en déplacement ce soir à Dourdan, appelle à la mise en place d'un plan de lutte dans le département, le plus touché d'Île-de-France par ces affrontements entre bandes rivales.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. La crise sanitaire à Dunkerque, on redoute plus que jamais de connaître le même sort que les habitants des Alpes-Maritimes.
Dunkerque, 200 000 habitants, l'épidémie qui flambe, le Premier ministre Jean Castex et le maire de la ville qui se sont parlé aujourd'hui. Le chef du gouvernement veut des mesures de freinage, ce qui laisse peu de doute sur la suite des événements. Mais le maire s'accroche à un dernier espoir, Lionel Gougelot.
Oui, et ce dernier espoir pour éviter un scénario à la niçoise, c'est un changement radical dans les comportements que prône Patrice Vergriet. Zéro rassemblement, zéro regroupement en famille ou au travail, dépistage, masque généralisé pour échapper à une mise sous cloche.
Si l'État devait venir nous annoncer des confinements en tant qu'élu local, nous n'allons pas nous y opposer. On peut comprendre un certain nombre de mesures. Ce n'est pas notre proposition. Nous voulons donner une dernière chance à la population dunkerquoise.
Vaccination et gestes barrières sont les seuls moyens d'éviter un confinement qui, même limité au week-end, serait mal vécu par la population, selon le docteur Guadin, médecin généraliste à Dunkerque.
Le virus, il circule dans la semaine, il ne circule pas que le samedi dimanche, monsieur. Donc il faut demander aux gens de respecter les gestes barrières, de se priver de convivialité pendant 15 jours, 3 semaines, pour qu'on puisse passer la vague au mieux et qu'on ne soit pas, encore une fois, confiné complètement.
Reste parmi les habitants un certain fatalisme, parfois teinté de colère. Laetitia, commerçante, exaspérée par le comportement des gens sur la plage de Malo.
Vu le monde qu'il y avait ce week-end sur la plage de Malo, c'est affolant, affolant. Les gens, ils n'ont pas compris qu'il y avait beaucoup de cas à Dunkerque. Et en fait, c'est beaucoup des gens de l'île qui sont venus. Et ils étaient tous collés, sans masque. Moi, je comprends pas. Donc, ils ont raison de confiner le week-end, en fait. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes, quoi.
Verdict annoncé demain par Olivier Véran, mais certains élus regrettent ici qu'on ait déjà perdu beaucoup de temps.
Un Lionel Gougelot à Dunkerque où l'on tente le tout pour le tout afin d'éviter un emballement de l'épidémie, mais au plan national, il n'y a pas de quoi être optimiste.
Effectivement, les indicateurs ne sont pas bons, surtout celui des malades en réanimation, un peu plus de 3400 actuellement, c'est du jamais vu depuis le début du mois de décembre. Il y a d'autres chiffres qui ont de quoi inquiéter Anne Le Gall.
Oui, il y a des tensions en réanimation de plus en plus marquées en région PACA, dans les Hauts-de-France, mais aussi dans le Rhône, en Moselle, où les variants sud-africains et brésiliens sont très présents, en Île-de-France, où les entrées en réanimation sont sur un plateau montant. Le directeur des hôpitaux de Paris a d'ailleurs parlé de semaines de vérité. On voit aussi que le nombre de contaminations quotidiennes en France est en hausse depuis presque une semaine. Ça ne s'était pas vu depuis le début du mois. Et que, d'un autre côté, ça c'est plutôt rassurant, le R effectif, le nombre de personnes contaminées par un cas positif reste en dessous de 1 au niveau national. Alors, que conclure ? Faut-il être pessimiste face à cette tendance à la hausse ? En réalité, on manque encore de recul pour conclure, mais il est vrai que cette hausse correspond à des projections qui ont été faites par les épidémiologistes et qu'au niveau du calendrier, elles concordent avec la propagation du variant britannique. Ce variant britannique est déjà majoritaire dans certains départements. Il devrait vraisemblablement le devenir la semaine prochaine au niveau national. On se situe donc effectivement à un possible moment de bascule.
Les précisions d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Une lueur d'espoir tout de même, elle nous vient d'Israël. Le ministre de la Santé annonce aujourd'hui que le vaccin de Pfizer protège du Covid dans 95% des cas et empêche d'en développer les formes graves.
Et en Écosse, on passe à la phase 2. Le gouvernement envisage un déconfinement progressif et prudent. Le 5 avril, autorisation de sortir de chez soi. Le 26 avril, réouverture des commerces non essentiels comme les bars, les restaurants, les hôtels et les salons de coiffure.
Ce virus du Covid qui a contraint les vaches, les veaux, les moutons à rester à la ferme cette année. Vous le savez qu'il n'y a pas de salon de l'agriculture. C'est une première depuis près de 60 ans. C'est donc Emmanuel Macron qui s'est déplacé aujourd'hui. Il est allé dans une ferme en Côte d'Or. Une visite et l'occasion de parler des difficultés du monde agricole et de ces fameuses négociations qui sont en cours avec la grande distribution. Jean-Rémy Baudeau.
Oui, l'Élysée avait promis soutien et fermeté. Ce sont bien les messages qu'Emmanuel Macron est venu passer dans cette ferme de Côte d'Or. Soutien aux agriculteurs, merci de nourrir la France, a martelé le chef de l'État. Et fermeté face aux négociations commerciales trop agressives.
Au moment où on a cette bonne négo sur le lait, aujourd'hui même, des grands distributeurs demandent moins 10% à des producteurs de charcuterie. Du jour au lendemain, un rétroactif au 1er octobre. Comment vous voulez que ça tienne une seule seconde ? On se fiche du monde quand on continue de faire ça. On fait, en quelque sorte, des petits efforts sur des couloirs de nage et on continue à détruire de la valeur ailleurs.
Emmanuel Macron qui cible la grande distribution, car toute la filière agroalimentaire le sait, ce sont les agriculteurs les victimes de ces pratiques. Un constat partagé par Serge Papin, l'ancien patron de Système U. Il remettra prochainement un rapport avec plusieurs propositions.
Si on ne veut pas que l'agriculture disparaissent. Il faut qu'on arrive vers une coopération plutôt qu'une confrontation. Et pour arriver à ça, c'est la pluriannualité des contrats qui le fera. Et donc cette recommandation-là va être aussi à l'ordre du jour dans quelques temps.
Des propositions et une volonté politique affichée par Emmanuel Macron qui prouve que la loi Egalim votée en 2018 pour protéger les petits producteurs a déjà atteint ses limites.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 et ses négociations, on y reviendra dans 10 minutes avec les grandes voix du mardi sur Europe 1. Fausse coque de smartphone, faux timbre, sans oublier des fausses baskets de marque. La contrefaçon, visiblement, ne connaît pas la crise.
Plus de 5,5 millions d'articles contrefaits saisis en 2020. Les vêtements, les chaussures et les accessoires, sont en tête du hit-parade dans plus de la moitié des cas. Ces marchandises sont arrivées par avion ou par train, quelques fois par la route, ainsi à Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Les douaniers ont intercepté un poids lourd en provenance de Belgique. À l'intérieur, 70 000 paires de chaussures, imitation plus ou moins parfaite de baskets Dior, Adidas, Reebok et Palladium.
Europe 1, Isabelle Millet.
18h08, dans un instant, la suite de votre journal. Les protections hygiéniques gratuites pour les étudiantes à la rentrée. Et c'est tout, sauf un détail.
Et puis Pelé, comme vous ne l'avez jamais vu, ou presque. Netflix s'intéresse au célèbre numéro 10 brésilien.
Le 18-20. Isabelle Millet.
18h10 sur Europe 1, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et les organisations étudiantes parlent d'une belle victoire contre la précarité menstruelle. Les protections hygiéniques seront gratuites à partir du mois de septembre.
Annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur. Concrètement, les étudiantes pourront obtenir des tampons ou des serviettes hygiéniques dans des distributeurs qui seront installés dans les universités. 1500 seront en place d'ici septembre.
Il faut savoir que selon une enquête de la FAGE, 13% des étudiantes doivent aujourd'hui choisir entre acheter ces protections périodique ou bien acheter à manger. Anna Prado Desoliveira est le vice-président de la FAGE en charge de la lutte contre les discriminations.
C'est une victoire. Les discussions que nous avons eues avec Madame Vidal, c'était sur la nécessité de lever le tabou sur les protections menstruelles et de les mettre dans des lieux de passage et vraiment pas enfermés dans juste les toilettes pour femmes, par exemple, puisque certains hommes ont leurs règles, comme les personnes transgenres, mais aussi les personnes non binaires, et donc c'est, pour nous c'était nécessaire d'avoir ça dans des différents lieux, et donc les services de santé universitaires semblent aussi des bons lieux de passage pour les étudiants et étudiantes. Et puis on fait attention aussi à ce que les protections soient adaptées au plus de morphologie possible, puisque tout le monde n'a pas le même corps, n'a pas les mêmes besoins. Certaines personnes ont un flux plus important que d'autres, donc il faut des protections variées.
Anna Prado de Oliveira au micro de Yasmina Katou. Il y a du football ce soir, Isabelle.
Avec la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Atlético Madrid, Chelsea et Lazio Rome, mais aussi Lazio Rome, Bayern Munich. On va y arriver. Atlético Madrid contre Chelsea et Lazio Rome contre Bayern Munich. Le coup d'envoi de ces deux rencontres, c'est à 21h. Et puis pour les nostalgiques, il y a une légende à la télé, une légende du foot. Netflix s'intéresse à Pelé.
L'artiste brésilien a droit à son documentaire. Si aujourd'hui votre enfant veut absolument un maillot floqué du numéro 10 dans le dos, c'est à cause de lui. Le roi Pelé jouait avec un numéro 10 dans le dos, mais oui. Mais ce que l'on apprend surtout dans ce documentaire que vous avez vu, Cyril de la Morinerie, c'est qu'il ne voulait pas jouer la Coupe du Monde 70. C'est pourtant elle qui l'a définitivement fait entrer au panthéon des artistes du ballon rond.
Oui, on découvre un Pelé fragile, sans certitude, qui prend part à reculons à la Coupe du Monde 1970, loin du gamin insouciant et virevoltant qu'il était en 1958. L'icône planétaire ne voulait pas aller au Mexique car il s'était blessé lors des deux Coupes du Monde précédentes, mais la dictature brésilienne ne lui a pas laissé le choix. Finalement, ce mondial deviendra en effet un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre collectif. Une équipe brésilienne au sommet de son art, victorieuse en finale de l'Italie. Le roi accompagne une génération en or comme Jairzinho en attaque, mais aussi Tostao, Carlos Alberto. À l'évocation de ce succès, eh bien Pelé, âgé aujourd'hui de 80 ans, désormais sur une chaise roulante, s'effondre en larmes car ce succès fut une bouffée d'oxygène pour son peuple alors oppressé. L'homme qui se livre peu évoque ainsi ses rapports avec la dictature brésilienne qui a sévi entre 1964 et 1985. Beaucoup lui ont reproché de ne pas s'opposer à la junte militaire, mais lui assure dans ce documentaire qu'il ne pouvait rien faire.
Je ne crois pas que j'aurais pu agir différemment. Je ne suis pas un surhomme ni un faiseur de miracles. J'étais une personne normale à qui Dieu avait permis de jouer au foot. Mais je suis absolument certain que j'ai fait bien plus pour le Brésil avec mon football que bien des hommes politiques payés pour le faire.
Dans ce documentaire rythmé aux images d'archives nombreuses, Pelé tombe le masque. Il évoque ainsi ses infidélités, ses enfants cachés. Une belle réussite pour Netflix qui, après donc, le succès planétaire du documentaire The Last Dance sur Michael Jordan, espère séduire les nostalgiques du plus grand joueur de football de tous les temps.
Mais Cyril de la Morinerie, documentaire à voir bien sûr à partir de ce soir sur Netflix. Cyril de la Morinerie du service des sports.
Christophe Lamarque, l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Anissa Haddadi, temps très lumineux pour demain. Bonne nouvelle.
Oui. Dès le début de la journée, en effet, Isabelle, demain, le soleil se montre sur de nombreuses régions, du nord jusqu'au Pays de la Loire, dans le sud-ouest, en Corse et puis sur le Grand Est. Attention, dans toutes ces régions, nous aurons des brouillards qui seront nombreux mais qui ne seront pas très épais. Hein. Vraiment, des brouillards qui peuvent un peu gêner la visibilité mais qui vont très vite se dissiper. Les nuages restent bien présents sur le Roussillon avec le vent marin qui souffle une nouvelle fois très fort demain toute la journée. Mais la pluie s'arrête, il ne pleut plus dans les Cévennes. Dans l'après-midi, à part sur le Languedoc-Roussillon et sur la pointe bretonne, partout ailleurs, nous avons du soleil dans un ciel complètement dégagé. Il va faire très beau. C'est une journée printanière digne d'un début avril que nous aurons demain.
Ah oui, quand même, pas mal.
Même niveau température, puisque nous aurons 2 à 12 degrés le matin. 2 pour Strasbourg, 4 à Clermont-Ferrand, 7 à Marseille, 9 à Nantes et Montpellier, 10 à Paris, Lille et Bordeaux et 12 à Boulogne-sur-Mer. Et puis au meilleur de la journée, comptez 13 degrés à Lorient, 19 à Paris et 22 la maximale pour Clermont-Ferrand.
Tenue printanière donc demain. Oui, oui. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.